Bonjour, nous allons prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, je te remercie, Père Céleste, de ce que les Écritures s'ouvrent en cette fin des temps pour nous aider à comprendre. Parce que c'est vrai, nous sommes devenus un peuple qui est devenu lent à comprendre. Et je te prie que tu ouvres les yeux de notre esprit afin que nous puissions saisir les choses que tu as à nous dire encore avant ton retour. Merci Jésus, merci mon Dieu. Amen. Je vais vous faire une lecture dans Hébreux chapitre 5 et verset 9. On va lire à partir du verset 6. Il est dit ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Jésus, il est dit dans les jours de sa chair, il l'a présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'était au jardin de Gethsémané que ça s'est passé. Et c'est écrit qu'il a été exaucé. Est-ce que Jésus a été exaucé? Est-ce qu'il a été sauvé de la mort? Il a été sauvé de la mort au jardin, afin de pouvoir aller à la mort de la croix, parce qu'il savait qu'il était venu pour cette heure-là. Mais se sentant faible, affaibli, il a prié, Père, que ta volonté se fasse et non pas la mienne, parce que la sienne, c'était de lâcher. Alors il a demandé à Dieu de l'aider, de le sauver de la mort qui était là dans le jardin, qui rôdait autour de lui et qui le faisait même transpirer jusque du sang qui sortait de ses pores. Dieu l'a sauvé de la mort là, afin qu'il puisse encore aller jusqu'à la croix et mourir là, à la croix, tel que c'était écrit, tel que cela devait se faire. Il a obéi, il a souffert, il a obéi, il a été élevé à la perfection. Et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est devenu quoi? L'auteur d'un salut éternel. Pour qui? Pour tous ceux qui croient. Et pour tous ceux qui sont trempés dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur Jésus, ou au nom de Jésus, ou au nom de Jésus-Christ. Non. Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Alors mes frères et sœurs, qui doutera de la justice de Dieu? Il refusera le salut à ceux qui ne se conformeront pas aux conditions prescrites auxquelles il est affirmé qu'on peut obtenir le salut. Jésus-Christ est pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à tous ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire de Dieu, l'honneur, l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité. Désobéissent à Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Ceux qui désobéissent à Jésus, qui désobéissent à la vérité et qui obéissent à l'injustice, ceux-là, la colère, la fureur, sera leur partage, leur héritage. Qui parle d'un esprit de dispute. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit de dispute? Eh bien, c'est un esprit de querelle. C'est ce que le dictionnaire français dit. Un esprit de querelle. Et une querelle, c'est une contestation, toujours d'après le dictionnaire. Jésus dit blanc, puis on dit, oh, mais est-ce que tu penses vraiment que? Si la Bible dit, alors, oh oui, mais la Bible dit, oui, mais enfin, quand même, est-ce que tu penses que? Tribulation et angoisse pour toute âme qui pratique le mal. Romains 2, 6, 9. Pas seulement après, hein, mais déjà ici. Voilà pour, parce que Jésus est le Seigneur des vivants et des morts. Et il châtie ceux qu'il aime. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin d'un Rédempteur. Parce que nous sommes venus ici-bas, sachant que pour nous c'était une occasion d'avancement, c'est vrai, nous savions que nous allons retourner dans la gloire et que nous, toutes ces choses que je vous ai déjà dit, mais les difficultés et les dangers sont tels ici-bas. L'influence du diable, de la chair, des démons, tout ça est tellement forte. Et nous sommes tellement faibles à y résister que sans l'aide d'une puissance supérieure à la nôtre, aucun d'entre nous ne pourrait retourner à Dieu d'où nous venons. Frères et sœurs, le besoin d'un Rédempteur réside dans notre incapacité à s'élever tout seul. Il faut être humble. Tout seul, nous sommes incapables de nous élever du plan temporel au plan spirituel. Tout seul, nous sommes incapables de nous élever du royaume inférieur, terrestre, au royaume supérieur. Sur mon bureau, là, j'ai un morceau de cristal. Je réfléchissais à ce morceau de cristal, c'est un minéral mort. Mais il peut grandir dans les limites de son ordre par l'acquisition de substances, avec le temps. Il peut parvenir à un état relativement parfait de structure et de forme. Vous avez déjà vu, vous avez visité des endroits où on voit ces cristaux, c'est magnifique. Mais il y a une chose certaine, il ne deviendra jamais un organisme vivant. J'ai aussi des plantes dans mon bureau, et les plantes, elles appartiennent à un ordre supérieur. C'est végétal, c'est un ordre supérieur à l'ordre minéral. Elles plongent leurs racines dans la terre, elles étendent leurs feuilles dans l'atmosphère, alors elles absorbent ce qu'il y a dans le sol, elles absorbent aussi ce qu'il y a dans l'air, et à partir de ça, elles fabriquent des tissus, les tissus de leur structure vivante. Par contre, c'est impossible à la plante de faire progresser son tissu au niveau animal. Impossible. Pourtant, le règne animal dépend du règne végétal pour se nourrir. Vous me suivez ? De même, la matière animale ne peut jamais devenir une partie de matière humaine. Pour que ça puisse arriver, pour que ça puisse se faire, il faut que l'humain assimile la matière animale, et que par un processus vital qui est dans l'être humain, la substance de l'animal se mettent à se transformer et à devenir de l'humain. Mais là-dedans, c'est le miracle de la vie qui fait tout ça. C'est le miracle de la vie. Et puis en plus, tout ça, tout ce travail, toute cette transformation, ça ne va pas durer éternellement. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Voilà ce que je veux dire, voilà où je veux en venir. Pour permettre à l'homme de passer de son état déchu, même dégénéré, on peut dire, pour passer de cet état-là à un état supérieur, à l'état de la vie spirituelle, eh bien, il a besoin de la coopération d'un pouvoir extérieur et supérieur à lui. Alors c'est vrai, l'homme peut être touché et élevé par l'opération des lois qui règnent dans le royaume supérieur. Mais il ne peut pas être sauvé par ses propres efforts sans aide. On peut être touché, on peut reconnaître, voilà, c'est vrai, voilà, c'est bien, et tout, c'est merveilleux, si seulement je pouvais y arriver, mais voilà, il nous faut ce souffle de vie pour nous donner la possibilité d'accomplir la bonne loi du royaume supérieur. Le Rédempteur et le Sauveur de l'humanité est essentiel à l'accomplissement du plan de Dieu qui est notre salut. Ce Rédempteur, Sauveur, c'est Jésus-Christ. Et il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ est notre Rédempteur, notre Sauveur, et aussi notre Maître. Maître, en ce qu'il a désigné la loi de la bonne nouvelle, la loi de l'Évangile, comme moyen auquel il faut se soumettre dans ce monde et aussi dans l'autre. Lui-même, il s'est soumis à la loi de son père. Il a obéi. Alors, en conséquence, celui qui croit, il est sauvé, et celui qui ne croit pas, il est condamné. Mais je prononce un mot terrible, un mot qui est détesté, un mot qu'on n'emploie que négativement. Jésus-Christ est notre dictateur. C'est-à-dire notre magistrat suprême investi de tous les pouvoirs. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit d'un dictateur. Regardons un peu les premiers disciples. Pierre confesse, « Tu es le Christ », Matthieu 8, 29, on dit ça. Hein. Et puis Jésus leur parle, il leur recommande sévèrement de rien dire de lui, de ne dire cela à personne à ce sujet-là, de dire de ne pas en parler. Pourquoi ? Et puis Jésus leur annonce sa mort. Alors, et puis Pierre le prend à part, Jésus, j'ai quelque chose à dire, tout ça, il le prend à part, et il se permet de reprendre Jésus. Jésus se retourne, il ne le regarde même pas, et il dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Voilà pourquoi Jésus ne voulait pas que ses disciples racontent à tout le monde qu'il était le Christ, parce qu'il se serait mis à dire n'importe quoi. Il ne concevait pas les choses de Dieu. Et puis, Jésus laisse passer 6 jours. Vous allez trouver ça dans le texte. Pourquoi il laisse passer 6 jours? Pour voir si ses disciples allaient pouvoir garder ce secret. Est-ce que ça n'allait pas les démanger? Est-ce qu'ils n'allaient pas en parler? Donc, 6 jours passent. Et on ne sait rien de ce qui s'est dit à ce moment-là, ni de ce qui s'est fait, mais Jésus, au bout de 6 jours, il en prend 3 de ses disciples avec lui, et puis il les conduit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Alors j'imagine les autres, ils devaient être un peu jaloux. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'ils m'en est à part? Et là, sur cette haute montagne, Jésus est transfiguré devant eux. Élie et Moïse apparaissent, ils s'entretiennent avec Jésus, et Pierre prend la parole, évidemment, Pierre, il n'a rien à dire, hein, il dit n'importe quoi. La Bible dit, il dit ça parce qu'il ne savait pas que dire. Marc 9, 5, 6, voilà. Il dit ça parce qu'il ne savait pas que dire, voilà. Beaucoup disent, à mon avis, je pense que rien, ils ne savent pas quoi dire, mais il faut qu'ils parlent. Et Dieu le Père dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et puis plus rien. Voilà, il voit Jésus tout seul, et puis tout est redevenu normal. On peut lire dans Marc chapitre 9, verset 9. Alors, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Voilà donc nos disciples qui n'ont rien compris et qui discutent sur « mais c'est quoi ressusciter des morts ?» En tout cas, ils ont compris une chose, il ne faut pas parler de ce qu'on a vu ni de ce qu'on a entendu, même pas aux autres apôtres. On va lire 2 Pierre 1, 16, 18. 2 Pierre 1, 16, 18. Il dit, c'est Pierre qui parle, il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, vous voyez, c'est pas Pierre qui a inventé des choses. Il dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ah là, il peut en parler. Il en parle plusieurs dizaines d'années après l'événement, après que Jésus soit ressuscité. Il en parle. Pourquoi ? Pourquoi il peut en parler là ? Un, parce que Jésus avait dit qu'il ne fallait pas en parler avant la résurrection, ça c'est là. Il fallait obéir. Et deux, parce qu'il pouvait en parler à ce moment-là, parce qu'il avait compris ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu sur la montagne. Je n'ai rien compris avant. J'avais vu, j'avais entendu, je n'ai rien compris. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Pour démontrer que l'obéissance est nécessaire. Parce que nous ne comprenons pas tout. Et en fait, Jésus n'est pas tenu de tout nous expliquer. Vous savez, j'ai fait l'armée en Suisse. Je ne sais pas en France comment c'est, parce que c'est le secret militaire. On ne me dit pas comment ça se passe ici en France, mais en Suisse, eh ben, je vais vous dire ce qui se passe. En Suisse, on a un cours de 4 mois, intensif, très intensif. Et puis après, pendant plusieurs années, on a 3 semaines de cours de répétition. Et là, on apprend une chose, surtout pendant ces 4 mois, on nous apprend à obéir sans discuter. Discute pas. Le caporal nous dit de ramper, on rampe. Hein? Alors on nous dit que il faut se mettre en slip pour courir autour de la caserne sous la neige, dans la glace, on le fait. On ne nous demande pas pourquoi. Après, on nous dit de s'habiller très chaud, et puis sous le soleil, d'aller courir. On réfléchit pas, on obéit. On nous apprend à obéir sans discuter. On doit obéir. Si on n'obéit pas, c'est le trou. Ma première nuit dans la caserne, je l'ai passée au trou. Parce que je savais pas obéir. Le commandant, là, je sais pas exactement, c'était un caporal, je crois, est venu me dire de faire une chose dans la chambrée. Je dis, oui, mais quoi? Au trou! Au trou. On doit obéir, sinon c'est au trou. Et alors, à force, eh bien, on obéit sans réfléchir. Je vous rappelle, avec mes copains, on disait, pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose. Eh bien, on doit être comme ça quand on est disciple de Jésus. C'est écrit, on fait. C'est écrit, on fait, on obéit. Je ne cherche pas à comprendre. On est dans une guerre et on ne connaît pas tout. L'obéissance est nécessaire parce qu'on ne comprend pas tout. Il parle, alors on obéit, c'est tout. Mais frères et sœurs, il peut être impossible à l'esprit humain de comprendre l'objectif divin qui se manifestait là lors de la transfiguration. C'était autant impossible de comprendre ce qui se passait là qu'il est impossible de se faire à partir d'une description verbale une idée parfaite de la splendeur du plan parfait de Dieu pour le salut et de pourquoi il faut aller témoigner, de pourquoi il faut prier, de pourquoi il faut obéir, Pourquoi cela a-t-il eu lieu, cette transfiguration? Pourquoi? Premièrement, c'était pour fortifier Jésus, pour l'encourager. Parce qu'il savait qu'il était arrivé au bord de la vallée de l'ombre de la mort et sa partie humaine réclamait un délassement, un encouragement. Ça a été un petit peu comme, si vous voulez, comme quand les anges sont venus le fortifier après ces 40 jours de désert face à face avec le diable, il était tenté en direct. Ou alors par exemple quand il agonisait au jardin, Gethsémané, il était soutenu par le ministère des anges. Mais de même, à ce moment décisif, commencement de la fin, on pourrait dire, mais des visiteurs du monde invisible sont venus pour le réconforter. Et puis pour les 3 disciples, pourquoi ça a eu lieu pour ces 3 disciples? À quoi ça a servi cette transfiguration de Jésus pour ces 3 disciples? Ils ont vu que Moïse et Élie n'étaient pas morts. Ils ont vu l'accomplissement de la loi et le remplacement des prophètes par le Messie. Et cela, ça a été attesté par la voix du Père, qui a dit, maintenant c'est lui que vous devez écouter. Bon, on dirait qu'ils n'ont rien compris, mais c'est venu après. C'est lui que vous devez suivre. C'est lui à qui vous devez obéir. Écoutez-le. C'est là que la dispensation de l'évangile a été établie. La loi et les prophètes n'avaient fait que préparer cette dispensation. Maintenant c'est Jésus le Maître, c'est Jésus le Seigneur. Et pour nous alors? Qu'est-ce que ça nous apprend, cette transfiguration? Eh bien, que nous devons nous laisser guider ni par Moïse, ni par Élie, mais par Jésus seul. Et ça a étonné Pierre, ça a étonné les fils du tonnerre qui étaient avec lui, parce que d'après leur interprétation, Élie devait venir précéder la venue triomphale du Messie. Alors, ils étaient plein de questions. Alors, vous voyez, toujours la théologie. Ah, voilà. Alors, on va lire ça dans Marc, c'est rigolo. Marc 9, 11, 13, hein, juste après, donc, la transfiguration, Jésus leur dit de ne pas parler de ce qu'ils ont vu, et puis eux, ils se mettent à discuter, mais c'est quoi de ressusciter? Et les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup, être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Alors il pose la question. Ça semble clair, la réponse semble claire, mais Jésus savait que ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas vraiment. Alors dans Matthieu 11, 14, vous voyez que ces choses sont cachées. Afin que seuls ceux qui cherchent trouvent. C'est ceux qui cherchent qui trouvent. Jésus dit, cherchez et vous trouverez. Vous cherchez pas, vous ne trouvez pas. Demandez et vous recevrez. Vous demandez pas, vous recevez pas. Ne demandez pas pour satisfaire vos besoins personnels, mais demandez pour la gloire de Dieu. Vous faites pas ça, vous recevez rien, parce que vous demandez mal. Faut obéir. Faut rentrer dans l'obéissance. Jésus savait bien que ce n'était pas clair pour vous. Alors justement, dans Matthieu 11, 14, il dit « Si vous voulez bien comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. » Quand il est écrit « Si vous voulez bien le comprendre, vous voulez bien comprendre ce que je vous dis ?» Ou, en d'autres termes, « Si vous voulez bien l'admettre, » Quand Jésus est obligé de parler à ses disciples, lui le maître, le créateur du ciel et de la terre, obligé de s'abaisser à dire à ses incultes, si vous voulez bien l'admettre, dans la version Chouraki s'écrit, si vous voulez bien accueillir ceci, voilà. Il y a des choses que nous devons vouloir admettre. Si Jésus dit, je l'admets, même si je comprends pas. Si vous voulez bien le comprendre, il faut vouloir comprendre certaines choses. Voulez-vous admettre que vous ne comprenez pas? Admettre que ça vous... Mais c'est pas parce que vous comprenez pas que vous êtes dispensé d'obéir. Vous comprenez ça? C'est ça qui est important. Le soldat, il obéit à ses supérieurs sans comprendre tout le plan de la guerre qui est menée. Vient de fêter la commémoration du débarquement. Vous croyez qu'ils comprenaient exactement tout ce qui se passait, ces hommes magnifiques qui se sont fait tuer là par milliers? Obéir, c'est être humble, être comme un enfant qui obéit sans discuter. Je me rappelle, Raphaël le Gitan, il racontait une histoire, c'était un petit garçon qui ouvre la porte de la cave et puis il y a l'escalier, mais c'est tout noir, puis il entend en bas, mais il voit pas, mais il entend juste une voix que son père, il saute. C'est la voix de son père, alors il saute. Pourtant, il voit même pas son père. Mais il saute parce qu'il entend la voix. Il obéit, il sait, il a totalement confiance. Voilà, ben c'est comme ça. C'est ça la foi. Quand tu obéis, tu montes ta foi. Et quand tu montes ta foi, tu es béni. Les premiers disciples n'ont pas pu évoluer avant d'avoir admis la seigneurie de Jésus. Quand ils se sont mis à l'écouter, comme le Père avait dit, avait ordonné de le faire sur la montagne, alors là, ils ont commencé à évoluer. Alors quoi? Maintenant, Dieu a donné des ministères. Alors, les gens disent, mais moi je veux suivre le Seigneur Jésus, je ne veux pas m'attacher à un homme, je n'obéis pas à un homme, je ne suis pas soumis à un homme, je suis soumis à Dieu. D'accord. Ok. Lis ta Bible et lis-la bien. Lis ta Bible et lis-la bien. Seigneur Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce message, et je te demande que chacun puisse se rendre compte de sa place dans l'armée du roi des rois, et que chacun joue son rôle et ne mette pas la pagaille, mais marche bien comme il faut sous les ordres du roi des rois. Merci Seigneur Jésus de bénir ceux qui y écoutent et qui ne sont pas toujours très obéissants, qui n'en font qu'à leur tête. Veuillez les bénir, non pas bénir leur désobéissance, mais bénir leur cœur afin qu'ils comprennent ces choses, qu'ils n'y trouvent aucune malignité, mais qu'ils comprennent que c'est par souci de leur âme que je parle. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.